Est-ce que dans le secret de votre cœur, vous avez jamais été troublé par la pensée, peut-être que j'arriverai pas à être fidèle à Dieu jusqu'au bout? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est souvent la crainte de gens qui sont très sensibles spirituellement, qui sont conscients de leurs lacunes, qui sont conscients de leur chute, de leur insuffisance. Mais en fait, c'est une question qui devrait nous occuper tous. Parce que la Bible dit clairement que nous ne serons pas sauvés si nous ne persévérons pas jusqu'au bout. Si c'est bien le cas, on peut se demander, mais alors, quel genre d'assurance notre foi en Jésus nous procure s'il y a en quelque sorte un doute? C'est vrai que il y a ce doute, si on peut dire, parce que il suffit pas d'avoir dit un jour, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Et puis voilà, tout s'arrête là. Ça ne suffit pas. Si on a ce genre d'attitude, c'est bien possible qu'on n'atteigne pas le but à la fin. Et peut-être que vous vous demandez comment est-ce que Paul a pu dire quelque temps avant sa mort avec tellement d'assurance, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, au jour du jugement. Comment est-ce que Paul peut avoir une telle assurance? Ben la réponse à ces questions, elle réside dans la qualité de notre relation avec Jésus. Et ce qu'il faut définir, c'est de quel Jésus on parle. De quel Jésus réellement parlons-nous? Et le passage qu'on vient de lire et la tentation au désert va nous permettre de préciser le Jésus dont il est question ici. Alors, selon les évangiles, on sait que Jésus a quitté Nazareth pour se rendre au Jourdain afin de se faire baptiser par Jean-Baptiste comme beaucoup d'autres Israélites. Et puis on l'a vu, quand il se présente devant Jean-Baptiste dit non, non, je ne veux pas te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dit, écoute, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Bon, il faut se souvenir qu'il y a des milliers d'anges dans le ciel qui ont annoncé la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Ils ont annoncé aux bergers que c'était le Messie promis. On sait aussi on se souvient que des mages sont venus de très loin pour se prosterner devant lui, pour reconnaître qu'il est le roi des Juifs. On se souvient aussi que Siméon, au temple, quand les parents de Jésus l'ont amené pour la circoncision, il a dit, mais il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël. Tout ça, c'est vrai. Mais ce que Dieu a prévu quand Jésus est venu au Jourdain, c'était pas qu'il reçoive la couronne royale des mains de Jean-Baptiste. C'est pas ça le but. Le but, c'est que Jésus s'identifie profondément à ceux qui, comme lui, étaient venus se faire baptiser. Et ça, pas seulement en vivant dans un corps comme le leur, mais en s'identifiant de manière si profonde avec leur humanité déchue, que quelque temps plus tard, 3 ans plus tard, Dieu pourra regarder à Jésus comme le représentant authentique des pécheurs qui méritent absolument tout le déploiement de la colère qu'il a en réserve pour ceux qui refusent de lui rendre gloire et de lui obéir. Voilà ce qui était convenable de faire lorsque Jésus s'est présenté devant Jean-Baptiste. Et dans sa lettre aux Philippiens, Paul décrit très bien ce que Jésus a pleinement accepté en se faisant baptiser. Philippiens 2, 6 à 8 dit, Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Maintenant, il faut bien rappeler une chose ici, qui est très importante. Jésus s'est dépouillé de ses prérogatives divines, mais pas de sa divinité. Il est resté saint, divin, mais il a renoncé à ses prérogatives divines. Il a renoncé au pouvoir d'utiliser cette puissance pour son propre profit. Donc, Jésus est si complètement entré dans le plan de Dieu à ce niveau-là, que dès qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme visible d'une colombe, et puis on entend aussi une voix qui vient du ciel et qui dit à son sujet, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Et donc on voit là le Saint-Esprit et le Père qui se réjouissent et qui approuvent le Fils qui a accepté de devenir comme l'un de nous, un simple homme. Et je ne sais pas si on peut vraiment réaliser ce que ça signifie. C'est tellement profond, tellement profond. On a besoin que l'Esprit nous aide à apprécier le fait que Jésus soit vraiment devenu comme l'un d'entre nous. Seulement, quelqu'un qui entendrait ça pourrait dire aussi, mais bon, et maintenant quoi ? Jésus a revêtu notre humanité, très bien. Mais qu'est-ce que ça change pour nous ? Ce que ça change pour nous, c'est vraiment la question. Le monde dans lequel on vit nous a habitués à ce qu'on appelle les crash tests. Vous savez que les constructeurs automobiles, ils simulent des collisions pour assurer la meilleure protection possible des passagers. Vous vous souvenez qu'en 2008, il y a eu un crash boursier et que peu après, certaines grandes banques ont en fait simulé des catastrophes financières pour voir si elles avaient suffisamment de réserves pour supporter ce genre de choc. Crash test. Eh bien, en conduisant Jésus au désert, le Saint-Esprit va soumettre Jésus à une sorte de crash test aussi. Il va le soumettre à l'épreuve qui doit démontrer s'il est capable d'affronter victorieusement celui qui a trompé nos premiers parents dans le jardin et qui a entraîné la ruine du monde. Alors, arrivé au désert, vous savez ce qui s'est passé pour Jésus ? Au début, rien. Rien. Il est là tout seul. Et il se laisse pas tromper par la tranquillité des lieux. Il commence à jeûner. Et pendant les 40 jours de jeûne, il va méditer, il va prier à propos des épreuves et des tentations auxquelles le peuple d'Israël a été soumis pendant les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert. Ça a été ça, son occupation essentielle. Et après 40 jours de jeûne, il a faim. Et le diable qu'il avait laissé tranquille au début trouve que ça, c'est le moment propice pour intervenir. Et alors il s'approche de Jésus pour lui dire, mais d'une manière totalement naturelle, d'une manière comme si c'était une évidence, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Vous voyez, pas de pression, c'est tellement naturel pour toi de le faire. Mais qu'est-ce que Satan cherche à faire? Qu'est-ce qu'il cherche à provoquer par ses paroles? Il cherche à obtenir de Jésus qu'il désobéisse à Dieu. Comment? En mettant en doute sa divinité, en lui disant, écoute, t'es le Fils de Dieu, alors prouve-le maintenant, transforme ces pierres en pain. C'est pas ce qu'il a fait. Il était beaucoup plus subtil. Pourquoi? Parce que ce qui le dérange profondément, ce qui l'inquiète, ce qui lui donne des sueurs froides, c'est que Jésus ait si complètement accepté de devenir un homme ordinaire. Le problème, c'est que c'est un homme ordinaire qui n'a pas péché. Et ça contrarie Satan. Et son but, c'est donc d'amener l'homme Jésus, qui a faim et qui est faible, à recourir à son pouvoir divin, ce à quoi il a renoncé en se faisant baptiser, pour se nourrir, parce qu'il a faim. Et ça, c'est justement ce que Jésus refuse de faire. Et pour toute réponse, il dit au diable, il lui cite en fait un de ces passages du Deutéronome qu'il a médité et qui dit « L'homme n'a pas seulement besoin de pain ou ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est comme s'il disait à Satan, Dieu me demande de partager la condition d'humains ordinaires. Eh bien, même si j'ai faim, je ne lui désobéirai pas en recourant à mon pouvoir divin pour répondre à mon besoin humain. Et là, Satan, il n'insiste pas. Échec. Mais un point pour Jésus. Alors, Satan, qui sait très bien que perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre, il concocte une deuxième tentation, probablement de manière assez rapprochée, et il transporte Jésus sur le sommet du temple, temple de Jérusalem. Et là, il lui dit, il a retenu la leçon que Jésus cite l'Écriture. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, Psaume 91, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Vous voyez la scène, Jésus, il est sur le sommet du temple, devant le vide, il y a 30 mètres. C'est comme sauter du 10e étage. Et le diable veut le persuader que puisqu'il est fils de Dieu, il peut démontrer sa grande confiance en Dieu, en se jetant dans le vide, parce que Jésus, Dieu, a promis que son pied ne heurterait pas une pierre. Et là, Jésus le répond par un autre passage du Deutéronome, qui rappelle aux Israélites, mais alors d'une manière très solennelle, qu'ils ne devront jamais tenter, c'est-à-dire forcer la main du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ne devront jamais exiger, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, exiger de lui qu'il intervienne miraculeusement pour les sauver. Et c'est cette tentation-là que Jésus rejette catégoriquement. Il rejette cette attitude orgueilleuse qui consiste à invoquer sa foi pour mettre Dieu dans l'obligation d'intervenir en sa faveur. Donc c'est un nouvel échec pour le diable. Et un nouveau point pour Jésus. Alors on lit que le diable transporte Jésus sur une très haute montagne avec vue panoramique sur tous les royaumes, toute leur richesse, leur gloire, leur prestige, etc. Et cette fois, c'est intéressant, il ne provoque pas Jésus en lui disant « si, tu es le Fils de Dieu ». Il a changé son approche. Au lieu de cela, il attaque Jésus sous l'angle de son humanité. Et il fait un pari, il se dit, puisque Jésus s'identifie si bien aux hommes, à l'homme, à l'être humain, pourquoi est-ce que son cœur ne céderait pas à la convoitise? Et alors il lui dit, tu vois tous ces royaumes? Eh bien tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. C'est incroyable, le culot du diable. C'est probablement des tentations, c'est probablement la pire, parce que Satan ne prétend à rien moins que d'amener Jésus à se prosterner devant lui et à devenir son roi, en quelque sorte. Ça, c'est le deal. Tu te prosternes devant moi, tu m'adores. Le monde est à toi. Mais comment est-ce que Jésus lui répond ? À nouveau, parle Deutéronome, en lui disant, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et Satan est obligé de partir. Alors, pendant longtemps, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, bon, ces tentations, c'est les tentations auxquelles Jésus a été soumis. Bon, il a été soumis en tant que Messie. Mais ça ne nous concerne pas parce que nous, on n'est pas dans la condition du Messie. Mais en réalité, c'était vraiment une grave erreur de lecture. Parce que justement, Jésus s'est identifié à un homme ordinaire. Et par conséquent, les tentations auxquelles il a été soumis sont les tentations auxquelles nous sommes nous-mêmes soumis. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et alors, si c'est le cas, ça soulève une double question. Que représentent pour nous les tentations auxquelles Jésus a été soumis? Et puis surtout, comment est-ce que nous pouvons vaincre ces tentations? Alors, qu'est-ce que signifie la première tentation? C'est la tentation de pécher pour satisfaire un besoin qui nous paraît extrêmement urgent, où on est désespéré. Quand le diable pousse Jésus à calmer sa faim en changeant les pierres en pain, la réponse que Jésus lui donne, elle devient beaucoup plus claire quand on la lit dans son contexte, dans le contexte de Deutéronome. Parce que là, voilà ce qu'on lit en Deutéronome 8. Dieu s'adresse à Israël. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté et t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions de cœur et savoir si es-tu allé ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Vous voyez, Jésus a été conduit par l'Esprit au désert pour être soumis à cette tentation. Et il a accepté que Dieu teste sa fidélité avant qu'il puisse commencer son ministère. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle avec nous. Si nous avons choisi de devenir disciples de Jésus, alors nous devons aussi accepter que notre foi soit testée, que Dieu permette que notre foi soit testée. Et si Jésus a, sur son chemin, subi cette épreuve, eh bien, le chemin sur lequel nous suivons Jésus peut aussi nous amener à passer par des déserts, par la solitude, par la pauvreté, par des échecs, par le deuil, par les faillites, par toutes sortes de malheurs et de misères. Et Dieu le permet parce que c'est dans ce genre de circonstances que nous découvrons notre immense pauvreté spirituelle qui se traduit par la peur, par le doute sur ce que Dieu va bien pouvoir faire ou s'il va faire quoi que ce soit. C'est dans ces moments-là que notre confiance en Dieu est vraiment testée et qu'on prend conscience de notre propre fragilité. Et là, attention à ceux qui vous disent « Mais ce que tu vis là, c'est complètement anormal, c'est pas pour ça que tu es devenu chrétien. » Ou bien attention aux prédicateurs qui vous assurent que vos luttes sont anormales parce que Dieu ne veut pour vous que bonne santé, prospérité et des bénédictions sans fin. Il faut être clair, c'est pas la voie de Dieu. C'est la voie de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on résiste à ce genre de tentation? On l'a vu, Jésus, il s'est préparé à affronter le tentateur en jeûnant et en méditant les difficultés par lesquelles Israël était passé dans le désert, et des difficultés qui pouvaient avoir deux conséquences opposées, produire deux choses opposées. Soit conduire les Israélites à abandonner la foi, et certains l'ont fait, ils voulaient retourner en Égypte, ils sont morts dans le désert, etc. Soit approfondir la foi des Israélites et les conduire à persévérer dans leur confiance en Dieu avec l'espoir d'entrer un jour dans le pays promis. Si vous qui êtes disciples de Jésus, vous rencontrez de grands défis dans votre vie, et ça manque pas quand on regarde la vie d'une personne dans sa durée. Vous êtes passé par de grands défis, des difficultés avec votre famille peut-être, des difficultés avec votre conjoint, des difficultés au travail, des difficultés de santé, etc. Eh bien, la question se pose, comment résister à la tentation de tous ces péchés qui se présentent devant nous comme des solutions rapides et faciles pour échapper à ce qui nous fait tellement souffrir? Comment est-ce qu'on résiste à cela? Eh bien, on résiste d'abord en acceptant que nous pouvons apprendre quelque chose des difficultés par lesquelles nous passons. Comme je viens de le dire, elles mettent en lumière nos propres vulnérabilités, nos propres incompréhensions, nos propres insuffisances. Elles éprouvent notre résolution à obéir à Dieu, même si nous nous trouvons dans des circonstances qui nous paraissent tellement injustes et révoltantes. Et puis on peut résister à ce genre de tentation de se livrer à toutes sortes de péchés qui nous apportent, qui nous proposent des solutions faciles, des soulagements rapides. On peut y résister en prenant la résolution de nous nourrir chaque jour de ce que l'Écriture nous donne. Comme les Israélites qui chaque matin se levaient pour aller ramasser la manne, dont la manne qui est une image de l'Écriture. Ils allaient ramasser pour se nourrir. On a besoin de s'entretenir de cette manière pour pouvoir affronter ce genre de tentation. C'est, j'en suis convaincu par expérience, c'est la meilleure manière de résister à la tentation de satisfaire notre besoin de paix et de repos. Vous savez, quand vous êtes dans des histoires qui n'en finissent pas, ça dure depuis des années, vous êtes tellement fatigué. C'est le meilleur moyen de résister à la tentation de divorcer, de quitter sa famille, de se venger de ses collègues, de tout ce qui est source de souffrance, de casser, de vous éloigner. Mais ça n'est pas le chemin par lequel Jésus nous appelle. C'est pas le chemin par lequel passer. Et ce qu'on peut dire, c'est que avec Jésus, nous avons vraiment la capacité de résister à la tentation de pécher pour trouver un soulagement à un problème brûlant. On a la capacité en Jésus de résister à cela. La deuxième tentation, qu'est-ce qu'elle représente? La tentation de reprocher à Dieu ce qui nous arrive et de lui réclamer réparation. Là, ça devient franchement fort. On l'a vu, Jésus a répondu au défi que le diable lui a lancé de se jeter dans le vide en rappelant ce commandement de Dieu à Israël. Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Là, ça c'est ce que Jésus dit, mais la citation exacte dans le Deutéronome, c'est « Vous ne forcerez pas la main de l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Alors évidemment, quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Massa? Et là, c'est le livre de l'Exode, chapitre 17, qui nous le dit. En résumé, Dieu avait conduit par le, comment est-ce qu'on appelle ça, la colonne, la nuée. Dieu avait conduit par la nuée les Israélites jusqu'à Réphidim. Là, ils campent. Mais il y a un problème. Une goutte d'eau. C'est pas un mince problème. Et les Israélites sont affolés. Et ils vont vers Moïse. Et ils le prennent à partie. Et ils l'accusent d'irresponsabilité. Mais tu nous as fait sortir d'Égypte, mais est-ce que c'est pour nous faire mourir dans ce désert où il n'y a pas d'eau? Et ils sont tellement remontés qu'ils sont prêts à le lapider. Et là, Moïse crie à Dieu, et Dieu lui dit, écoute, tu prends ton bâton, tu vas frapper le rocher, et de l'eau en sortira, et les Israélites pourront se désaltérer. Et c'est dans ce contexte-là que, quand Moïse a écrit, a rapporté cet épisode, il a appelé cet endroit Massa, parce que les Israélites avaient voulu forcer la main de Dieu. Ils avaient en quelque sorte lancé un ultimatum à Dieu en lui disant « Éternel, es-tu au milieu de nous, oui ou non ?» Ils étaient vraiment remontés. Ils en avaient vraiment disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Comment il nous traite ?» Parce que pour les Israélites, ce manque d'eau, ce manque d'eau, ils l'ont attribué à Moïse, mais l'attribuer à Moïse, c'était l'attribuer à Dieu. C'était une manière totalement irresponsable d'agir et que s'ils étaient dans une situation aussi désespérée, c'était totalement la faute de Dieu. Alors, voyez ce qui peut se passer pour nous. Quand on est dans des situations vraiment très difficiles sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle, personne n'a de contrôle, la tentation est grande d'accuser Dieu, mais vraiment énorme. On peut dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as permis que notre enfant naisse avec une maladie incurable? Ou pourquoi est-ce que tu as permis qu'il meure prématurément? Ou pourquoi est-ce que tu as laissé notre maison brûler pendant les incendies de forêt de cet été? Ou pourquoi est-ce que je suis au chômage après, à l'âge de 50 ans alors que j'étais toujours servi honorablement, fidèlement? Et là, on a en quelque sorte envie de crier à Dieu. Dieu, si tu es vraiment le maître du monde, si tu m'aimes, si tu nous aimes vraiment, sauve-nous, sauve-nous, démontre-nous ta puissance. Démontre-nous ton amour. Sinon, de notre côté, c'en est fini avec toi. Juré. Comment est-ce qu'on repousse? Comment est-ce qu'on résiste à ce genre de tentation quand la vie est vraiment dure, dure, dure? La première chose dont on a besoin, c'est de retrouver notre raison, parce qu'on est complètement submergé par nos émotions. On a absolument besoin de retrouver notre raison. Et de comprendre que Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Et qu'il est beaucoup plus important de le remercier pour ses très nombreux bienfaits, plutôt que de nous lamenter sur notre sort. Et puis, on a besoin de se souvenir aussi que Dieu, que si Jésus ne nous a pas promis un chemin sans épines, sans souffrance, sans douleur, il s'est néanmoins engagé de manière radicale à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, ça fait une différence. Avec Jésus, nous pouvons être libérés de la tentation d'accuser Dieu de ce qui nous arrive. Ça nous amène à la troisième tentation. Qu'est-ce qu'elle signifie? C'est la tentation de régner, de vouloir dominer. Le diable a été clair avec Jésus. Tu te prosternes devant moi, tu m'adores comme ton roi, le monde est à toi. Est-ce que un personnage aussi extraordinaire que Salomon n'a pas finalement cédé lui-même à cette tentation? Parce que malgré les interdictions d'avoir de très nombreuses épouses et d'épouser des femmes païennes, non juives, c'est exactement ce que Salomon a fait. Il l'a fait pour assurer la sécurité de son royaume. Pour cela, il a conclu des alliances en épousant les filles de princes ou de rois de peuples environnants. Alors vous savez ce que ces femmes lui ont amené. Elles ont amené des cultes païens. Elles ont détourné son cœur de Dieu. Et Salomon a mal fini sa course. Et maintenant, on peut toucher un problème beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus peut-être sensible. Est-ce que les pasteurs de certaines méga-churches, là je pense surtout à ce qui se passe aux États-Unis dans certaines églises, est-ce que ces pasteurs n'ont pas cédé à la même tentation en prêchant un évangile qui élimine la notion de repentance et un évangile qui est en fait un évangile du développement personnel? C'est quasiment de l'enseignement psychologique, mais ça leur donne des assemblées énormes. Des gens qui sont très réceptifs à ce genre de message. Quand vous dites aux gens, mais vous êtes merveilleux, il suffit juste que vous changez deux, trois choses dans votre vie, que vous acquérez, que vous compreniez tel ou tel principe, et vous allez voir votre vie fleurir. Mais les gens, ils sont preneurs. Et vous avez des églises absolument énormes. Oui, mais vous savez comment ça se traduit? Église énorme, gros budget, salaire en hausse pour le pasteur. Ça paraît horrible à dire, hein. Peut-être que vous connaissez aux États-Unis, il y a un homme qui est carrément un faux prophète. Il s'appelle Kenneth Copeland. Il a prédit la fin, du Covid, ça ne s'est pas passé. Il a prévu avec d'autres la réélection consécutive de Trump, ça ne s'est pas passé. Mais il continue à avoir un public énorme. Et son public est tellement énorme qu'il a réussi à obtenir de ces gens qu'il lui donne 60 millions de dollars pour qu'il s'achète un jet privé pour son ministère. C'est des gens, ils voient grand, ils veulent voir grand, mais ils ont perdu l'évangile. Et il y a un autre problème qui nous touche aussi, nous évangéliques. Il arrive aussi à certains musiciens chrétiens de se perdre, parce que le succès et les gains financiers deviennent une telle préoccupation pour eux qu'ils font des compromis moraux, et que certains vivent une double vie, chrétien sur la scène, et toute autre chose ailleurs. Il y a un article d'ailleurs du Christian Ipsos aujourd'hui de septembre, dont le titre est « Louange en façade, scandale en coulisses ». C'est ça la réalité des milieux évangéliques aussi. Alors, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes jamais tentés de mentir, de tromper, d'agir de manière détournée pour augmenter notre influence, peut-être dans l'Église, peut-être sur notre lieu de travail ou ailleurs? Est-ce que la tentation du pouvoir d'être une personne en vue, de jouir de certains privilèges ou prestiges, ou le désir de s'enrichir, est-ce que ça ne nous touche jamais? Est-ce que ça ne nous titille jamais? Comment résister à la tentation de vendre son âme pour quelques bénéfices dans ce monde? Vous savez, Satan, il est très habile. Il nous laisse penser que un petit mensonge, une tromperie occasionnelle, c'est complètement anodin. C'est pas grave, pourvu que ça te permette d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Et là, on doit se demander, comment répondre à ce genre de tentation? Jésus, il a fait une recommandation très simple à ses disciples. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela, nourriture, tous les besoins de la vie, vous seront donnés par-dessus. Quand on donne la priorité à Dieu, il ne nous prive d'aucun bien véritable. Il nous donne absolument tout ce qui est bien véritable. Et tout comme pour Jésus, notre vocation, c'est pas de régner. Notre vocation, c'est de trouver notre joie dans l'appel, dans le service à laquelle Dieu nous a convoqués. Alors, j'aimerais terminer. J'espère que j'ai pas été trop long. Je sais pas. La question du début, c'était, est-ce que nous saurons être fidèles à Dieu jusqu'à notre dernier souffle? Et l'exemple de Jésus nous permet de répondre, oui, c'est possible. On peut être fidèle jusqu'au bout, grâce à Jésus. Et il y a un passage magnifique dans Hébreux 4 qui résume tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu dans ce passage. Je vous le lis. Hébreux 4, 15 à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui offrait les sacrifices en Israël pour le pardon des péchés. Nous n'avons pas un grand prêtre, Jésus, qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Dieu, il s'est identifié à l'homme ordinaire. Donc, il comprend tout de nos faiblesses, de nos peurs, de nos échecs, de nos reculs. Donc, nous n'avons pas un souverain sacrificateur ou un grand prêtre qui serait incapable de compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et malgré les secours de Jésus, il nous arrive de pécher. Ça arrive. C'est pour ça qu'il faut aussi rappeler ces gens qui le font. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute l'injustice en nous qui nous pousse à pécher. Voilà le fruit du plan de Dieu pour Christ. Le fruit de son identification complète avec nous. Et la bonne nouvelle, c'est que le chemin sur lequel il nous a appelés et nous appelle est un chemin qui est mission possible. C'est pas au-dessus de nous. Si nous le vivons avec Jésus, qui a vaincu le diable dans toute espèce de tentation, ce que nous pouvons faire nous aussi. Amen. Amen. Si ça vous fait crier de joie, si ça vous remplit le cœur de reconnaissance, pourquoi ne pas le dire maintenant spontanément à Dieu comme ça, avec une prière courte, une phrase, deux phrases, mais ça honorerait Dieu, Dieu se réjouirait de notre louange. Donc je vous invite à remercier, louer Dieu, comme l'Esprit vous l'inspire.
Allez.